Il n'y a jamais eu l'équivalent au Zimbabwe d'une commission justice et réconciliation. La réconciliation a toujours été un faux semblant. La réconciliation avec les Blancs, on a bien vu ce que ça valait lorsque Mugabe a commencé à prononcer ses diatribes haineuses à la fin des années 90, au début des années 2000. Et la réconciliation avec les Ndebele, qui soutenait le mouvement de Geoffrey Nkomo, elle a toujours été aussi subordonnée à l'obéissance aveugle et sans discussion des leaders de la ZAPU ralliés au parti dominant. Le mot de réconciliation pour Mugabe n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui ne comprend que les rapports de force et qui a une vision extrêmement cynique de la vie politique. Il suffit de décrire cette situation pour voir à quel point elle contraste avec ce qu'on a vécu en Afrique du Sud depuis 1994.
Avec l'apartheid, l'autre héritage de la colonisation, c'était la répartition injuste des terres entre blancs et noirs. Mais très vite, on a reproché à Robert Mugabe d'instrumentaliser sa réforme agraire.
Il est évident que cet héritage de la colonisation et d'une répartition particulièrement injuste du foncier ne pouvait pas perdurer indéfiniment. Simplement, un tel programme ne pouvait se développer qu'à un rythme relativement lent, non pas à cause du manque de terres, mais à cause du manque de financement et de moyens matériels d'accompagnement pour permettre la transformation du jour au lendemain de milliers de paysans venus de l'agriculture vivrière en agriculteurs modernes efficaces. En 1998, les donneurs d'aide occidentaux s'étaient mis d'accord pour financer un programme de relance de cette réforme agraire à la demande du gouvernement zimbabwéen. Et c'est Mugabe lui-même qui a fait capoter cette démarche en décidant de politiser le dossier et de l'utiliser dans sa tentative de lutte contre l'opposition en attaquant les Blancs. Et ça a contribué à polariser évidemment les opinions au niveau africain et au niveau international.
Dans ce contexte, quelles sont les perspectives? Le principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le Changement Démocratique, a été affaibli par les lois répressives adoptées en 2002. Y a-t-il quelque espoir d'ouverture démocratique?
Si vous voulez, moi je trouve d'abord que c'est un miracle que ce parti existe encore, que les gens aient trouvé la force morale de résister à 5 années d'assaut répétés de violence, de harassement, de confiscation de leurs biens. Vous en avez un des députés qui a été jeté en prison, là, aux travaux forcés pour 1 an, sous des prétextes fallacieux. Les organisations de la société civile les ont soutenus. Elles ont été elles-mêmes victimes de cette politique de répression, y compris l'Église catholique à travers le très respecté archevêque de Bulawayo, Pius Nkube. C'est étonnant, si vous voulez, la capacité de résistance à autant d'oppression et de violence soutenues. Et donc, ça, c'est un facteur d'espoir. En revanche, du côté du parti au pouvoir et du président Mugabe, je ne crois pas que les choses soient sur le point de bouger. Pour deux raisons. D'abord, Mugabe entend finir son mandat présidentiel en 2008 et il n'a jamais eu l'intention de se retirer. C'est sa meilleure garantie, sa meilleure assurance vie. Et d'autre part, le parti qu'il dirige est un ensemble de factions qui se battent à couteau tiré dès qu'il a le dos tourné. Et dès que le président Mugabe sera parti, ses héritiers se déchireront et risquent de le faire dans la violence. Donc la cohésion même de l'élite dirigeante est subordonnée à son maintien au pouvoir.